Directeur régional de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et j'ai eu la chance d'aller à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2002, au sommet de la Terre, où on a parlé de développement durable, de réchauffement climatique, d'énergie renouvelable. Et c'est là où le président de la République de l'époque, M. Chirac, avait dit « la maison brûle et on regarde ailleurs ». Alors je vais essayer de vous résumer finalement ce qu'est mon métier, ce que sont mes activités, et puis tout ce que j'ai eu la chance donc de comprendre en allant au sommet de la Terre. Je vais essayer de vous le faire partager là en 45 minutes à peu près d'une conférence. Je me permettrai de vous poser quelques questions, comme ça on verra un petit peu ce que vous savez ou ce que vous croyez sur le sujet. Et puis après on aura 45 minutes de questions-réponses. Donc là vous me torturerez dans tous les sens et puis j'essaierai de répondre à vos questions si j'y arrive bien évidemment. Vous avez vu, c'est filmé parce que sur le site de l'Université de tous les savoirs, vous pourrez revisionner ça, vous pourrez y avoir accès, vous pourrez partager cet événement avec vos copains, copines, vos parents, vos amis, bien évidemment, et le visionnage est gratuit hein, sur ce site de tous les savoirs. Voilà, ça va pour la petite introduction? On est d'accord sur le petit cheminement? Donc c'est parti, je vais vous proposer que nous embrassions le développement durable. C'est quelque chose dont vous avez entendu parler, forcément, fatalement, et puis que nous fassions un zoom, bien sûr, sur le sujet des énergies renouvelables. Pour aborder ce développement durable et puis ces énergies renouvelables, il y a plusieurs façons. Je peux vous la jouer mathématicien, je peux vous la jouer scientifique, je suis moi-même un ingénieur, je peux vous la jouer philosophie, je peux vous la jouer histoire, on peut parler de géographie, on peut parler de sport. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu tout ça en même temps, pour que vous situiez bien les enjeux et que vous compreniez bien à quoi on a affaire. Parce que sinon, les conférences de ce type-là sont souvent, voilà, je vous projette un PowerPoint, je vous montre des courbes, des statistiques, on se fait des calculs, je vous assène des chiffres, puis ensuite vous repartez chez vous pendant le week-end avec un mal de tronche en se disant « mais qu'est-ce qu'il a raconté ? Ça n'a rien d'intéressant. » Non, 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 vous allez voir, tout ça c'est que du plaisir, c'est qu'un changement de civilisation dans lequel nous allons entrer tous, et donc c'est du bonheur ça. C'est pas du tout un sujet ou des sujets spécifiques, revêches, inintéressants. Bien, on va donc faire un tout petit peu d'histoire, on va faire un tout petit peu de philosophie, on va faire un petit peu de géopolitique, et puis on va faire bien sûr un petit peu d'énergie, de réchauffement climatique, et puis d'énergie renouvelable. Alors, premier point, l'histoire. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. 10 000 ans avant Jésus-Christ, combien y avait-il d'habitants sur la Terre? Combien? 400? Un peu plus quand même, un peu plus. 450? Franchement plus quand même. Allez, je vous donne... Voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Il y avait 5 millions d'habitants sur la planète. 10 000 ans, avant Jésus-Christ. À la fin du Moyen-Âge, enfin, le Moyen-Âge, c'est il n'y a pas très très longtemps quand même. Nous étions combien sur la planète? 600 millions, c'est presque ça, bravo, 400 millions. Donc on est passé de 5 millions à 400 millions. C'est beaucoup de 400 millions, puis en même temps c'est relativement peu, parce qu'entre 10 000 ans avant Jésus-Christ et puis la fin du Moyen-Âge, il s'est quand même passé quelques années. Et aujourd'hui nous sommes 7 milliards. Donc vous voyez que sur notre planète, pendant très 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 longtemps, nous n'avons été que quelques-uns. La planète, elle est finie. Hein. Il y a des limites à la planète. Hein. Vous avez des matières premières, vous avez un océan, vous avez de la terre, vous avez des montagnes, vous avez de la nature. Mais ce n'est pas infini, cette affaire-là. Finalement, on en a assez vite fait le tour. Donc pendant très longtemps, nous n'étions que quelques-uns à vivre sur cette planète. Et puis d'un seul coup, finalement, en quelques centaines d'années, depuis la fin du Moyen-Âge, nous sommes passés de 400 millions d'humains à 7 milliards, et puis il paraît que ça va encore s'étendre un petit peu, qu'on va aller jusqu'à 8 ou 9 milliards. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démographie, comme disent les historiens, eh bien, elle est galopante. Donc, on est maintenant 7 milliards d'humains sur une planète qui est une planète finie. Donc finalement, sur une petite planète. Et quand je dis petite planète, je pense évidemment à ce qu'elle contient, à ce qu'elle porte, cette planète. Donc elle contient des matières premières, elle contient des énergies, des stocks d'énergie fossiles. Vous avez du charbon, vous avez du pétrole, vous avez du gaz. Puis il y a aussi d'autres stocks. Vous connaissez l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, donc vous avez des stocks d'uranium également. Et ces stocks sont en quantité limitée. Je vous donne juste un ou deux chiffres pour bien situer cette affaire. Du pétrole, il y en a pour encore 50, 60, 70 ans de stock. Le gaz, c'est la même chose. Le charbon, c'est 200 à 300 ans. Et puis l'uranium, c'est 50 à 60 ans. Voilà les stocks dont nous disposons pour 7 milliards d'humains. Alors quand nous étions quelques centaines de millions vis-à-vis de ces stocks-là, ça allait, le gâteau était suffisant. Quand nous sommes 7 milliards, puisque nous utilisons de l'énergie, puisque nous utilisons des matières premières, bah quelque part il n'y en a pas assez pour tout le monde. Premier constat, ça y est, on a terminé la micro-leçon d'histoire. Deuxième sujet, on a dit qu'on allait faire un tout petit peu de philosophie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous balade? Non, non, c'est simplement pour vous montrer que le développement durable et puis le sujet, le zoom que nous allons faire sur les énergies renouvelables, c'est pas un sujet de technicien, c'est pas un sujet de philosophe, c'est pas un sujet de financier, c'est pas un sujet de sportif, c'est pas un sujet de jeune ou de moins jeune, c'est un sujet de tout le monde qui est abordable par toutes les disciplines. Autrement dit, quels que soient vos métiers, quelle que soit votre contribution à la société dans laquelle vous êtes déjà et à laquelle vous allez prendre part de plus en plus activement, quel que soit votre métier, disais-je, vous aurez à vous saisir, vous êtes dans le développement, vous êtes dans le rapport aux énergies, à la planète, vous êtes dans l'histoire de votre civilisation. Ce n'est pas un sujet tout à fait comme les autres, cette histoire de développement durable. Philosophie, disais-je. Vous savez qu'il y a eu des milliers de civilisations avant nous. Je vais en citer simplement une ou deux. On va faire un ou deux zooms à nouveau et puis je vais vous dire un petit peu quelles étaient leurs finalités, quelles étaient leurs quêtes, quels étaient leurs sens, leurs buts. Par exemple, vous aviez, on va dire, j'en parlais tout à l'heure avec un collègue, vous avez les Égyptiens, vous savez, les pharaons, toute cette époque, cette civilisation-là qui a duré à peu près 4000 ans. Bon. C'était quoi le but des Égyptiens ? C'était, finalement, pendant toute leur vie, ils se préparaient à la mort. Et donc, ils se préparaient à aller discuter avec le dieu ou les dieux. Bon. Et ils se préparaient à ce passage. Donc, ils ont construit des pyramides, qui étaient finalement une espèce de chemin, en quelque sorte, pour aller vers les dieux. Voilà, on va le dire comme ça. Et puis, pour construire ces pyramides, bon, ils se sont même endettés. Ils avaient une monnaie, les Égyptiens. Et eux, quand ils allaient voir leur banque, ils s'endettaient sur 400 ans. Aujourd'hui, allez voir votre banquier, puis dites-lui, bonjour madame la banquière, monsieur le banquier, je viens faire un prêt pour 400 ans. À mon avis, vous repartez dans un fourgon de police, et puis on vous met aux arrêts, quoi. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que le but des Égyptiens, ils dédiaient leur vie à préparer leur mort, et puis leur système, leur monnaie, ça n'avait rien à voir avec la nôtre, puisqu'on pouvait faire des prêts sur 400 ans, qui vont bien au-delà de la durée d'une vie humaine, qui est de 70, 80, 90, allez, 100 ans si tout va bien. Bon, je vais prendre un autre exemple pour vous montrer qu'il peut y avoir d'autres buts. Si on s'en va en Amérique du Sud, du côté des Incas, tous lus Tintin, le Temple du Soleil, etc. Bon, très bien, on est chez les Incas. Donc les Incas, c'est pour nous, c'est l'équivalent du Moyen-Âge, hein, on est à nouveau dans cette période-là. Les Incas, eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Ils cherchaient simplement à, non pas conquérir, mais à fédérer, à organiser toutes les peuplades qui vivaient en Amérique du Sud. C'était ça leur but. Donc, avant les Incas, il y avait d'autres civilisations, il y a eu les Mayas, bon, etc. Et les Incas, se sont dit, ils n'ont vécu que 150 ans. Cette civilisation-là n'a duré que 150 ans. Ben, on va essayer de prendre tout ce que savaient faire les Mayas, tout ce que savaient faire les Indiens Quechua, tout ce que savaient faire les Anasazi, etc. Et puis on va s'organiser pour que tout leur savoir physique, tout leur savoir biologique, tout leur savoir médical, eh bien on réussisse à l'agréger, on réussisse à en profiter pour nous Incas. Donc c'est une civilisation de la connaissance en tant que telle. Et le rapport des Incas, par exemple, à l'or, c'était on utilise de l'or, parce qu'il y a beaucoup d'or en Amérique du Sud, uniquement pour se décorer. Ça n'avait pas de valeur en tant que tel. Quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, les conquistadors, ils sont arrivés, ils ont vu de l'or. Et en fait, ils ont anéanti les Incas, parce qu'ils voulaient leur piquer leur or, parce qu'en Europe, la valeur de l'or, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, il y avait une richesse matérielle en tant que telle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les civilisations, selon les époques, vous aviez un but qui était différent, et vous aviez, à l'époque de Christophe Colomb, des conquistadors de l'Amérique du Sud notamment, du côté de l'Europe, une civilisation qui était déjà en train de se dire comment peut-on récupérer des matières premières et comment peut-on s'enrichir avec ça. Puis vous aviez une autre civilisation, parce que certaines civilisations fonctionnent en même temps. Aujourd'hui, on est dans une civilisation mondiale, mais pendant très longtemps, il y a eu beaucoup, beaucoup de petites civilisations un peu partout. Et vous aviez une autre civilisation en même temps qui avait un autre but, qui était simplement celui de construire un savoir qui venait des civilisations ou des générations précédentes, les Incas en l'occurrence. Alors maintenant, j'en arrive à la nôtre de civilisation. Est-ce que vous pouvez me donner son but? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est notre définition du bonheur, par exemple? Il y en a un ou deux qui essaient de se jeter à l'eau? Difficile de se regarder, hein. Vous voulez que nous changions de micro? On va changer de micro. Ça va mieux, là? Oh là là. J'arrive même à m'entendre. Bon, alors c'est moi qui vais me jeter à l'eau, c'est plus simple, j'ai le micro. La nôtre de civilisation, sa quête, son sens, c'est, je vais être extrêmement réducteur dans le propos, c'est consommation matérielle. Le bonheur, c'est dans la consommation. Donc c'est chacun sa voiture, chacun sa tondeuse à gazon, chacun son téléphone portable, chacun son ordinateur, chacun. Question, est-ce que nous sommes plus heureux pour ça? Est-ce que cette production, il faut bien produire des objets, il faut les jeter, ça donne des déchets, on reproduit des objets, on reconsomme de l'énergie, des matières premières, ça se vend, il y a des promotions, chacun a ses affaires, on les jette, on recommence, il y en a assez pour tout le monde? Est-ce que c'est vraiment suffisant comme finalité de notre civilisation? On peut se mettre au jour d'aujourd'hui, un grand point d'interrogation. Donc, nous, notre civilisation, la nôtre, c'est le bonheur égal matérialisme. On peut réfléchir, on peut philosopher. Vous avez vu par les exemples trop limités que je vous ai donnés juste avant, qu'il y avait beaucoup d'autres civilisations qui ont vécu avant nous, qu'il y a beaucoup de bonheurs différents en tant que tels, beaucoup d'aspirations différentes. La nôtre, pour l'instant, c'est celle-là. Avec des conséquences ou avec des constats qui sont, est-ce que les 7 milliards d'habitants se retrouvent dans ce bonheur-là? Est-ce que tout le monde a la même, avec des guillemets, richesse matérielle? N'aurait pas quelques pauvres par là, dans les pays du Sud, et puis ici en Europe, et puis est-ce qu'il y a assez sur notre petite planète de matières premières, de stocks d'énergie pour fabriquer ces objets de consommation, ces biens de consommation? Grande, grande question. La réponse à l'évidence est non. On a quelques-uns qui vivent bien, puis il y en a beaucoup qui regardent le train passer. Donc l'Europe, globalement, on va dire, s'y retrouve dans ce bonheur matériel. L'Amérique du Nord, globalement, s'y retrouve. L'Australie, ils ne sont pas beaucoup en Australie, ils sont 20 millions. 20 millions pour un territoire plus grand que l'Europe s'y retrouve aussi, d'une certaine façon. Mais pour 20 millions d'Australiens, 400 millions d'Européens et 400 millions de Nord-Américains, ça fait un tout petit milliard d'humains, il en manque quelques-uns pour arriver aux 7 milliards. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux sur une planète aux limites finies. Il y a des stocks, il y a une atmosphère, il y a une capacité pour la planète à servir en fin de compte le destin de notre civilisation qui est je me réalise, je suis content si je possède des objets. Comment ça partager? Comment ça louer ensemble? Comment ça être en copropriété? Oh là 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 là. Chacun chez soi, chacun ses affaires, je ne prête pas. J'arrête de faire des haussements de sourcils, j'arrête sur ce sujet-là. Évidemment, il ne m'appartient pas d'édicter une définition de ce qu'est le bonheur, d'édicter une définition de ce qu'est une bonne philosophie. Je vous donne juste un autre exemple, qui est un tout petit royaume que vous avez à l'est du Népal, au bord de l'Himalaya. Ce petit royaume s'appelle le Bhoutan. Allez voir sur Internet, allez faire un petit coup de Google. Voilà, Bhoutan. Et ce royaume du Bhoutan, lui, il se dit, le bonheur, finalement, je le mesure à l'éducation de l'ensemble des habitants du Bhoutan, ils sont pas nombreux, hein, ils sont 2 millions. Bon. Je le mesure à l'éducation, au niveau d'éducation, je le mesure à la durée de vie, et je le mesure, ce bonheur, au lien social. C'est-à-dire que plus les personnes font des choses ensemble, normalement, plus elles sont heureuses. Ils ont construit un indicateur qui est assez intéressant, qui s'appelle le bonheur intérieur brut, le BIB. Alors que nous, nous mesurons notre bonheur matériel, c'est un acronyme que vous avez déjà entendu, au produit intérieur brut. Donc ça, c'est le matériel, la richesse et la richesse financière qui permet de s'acheter du matériel, qui permet de s'acheter des objets de consommation. Ça, c'est notre bonheur à nous. Eux, là, ce petit royaume, il s'est construit une autre forme de bonheur. Donc vous voyez que même aujourd'hui, il y a des pays, il y a des humains qui aspirent, qui ont cette réflexion, qui se disent, c'est pas très durable parce que tout le monde ne peut pas se réaliser, parce que la planète est trop petite pour fonctionner uniquement sur un bonheur matérialiste. Donc, d'autres, comme ce royaume-là, sont en train de réfléchir à une autre forme de développement, une autre forme de bonheur. Ils ne sont pas moins heureux que nous, de ce point de vue. Alors après avoir fait de l'histoire, après avoir fait de la philosophie, on va maintenant faire de la géopolitique. Autrement dit, de la géographie, et puis des grosses piqûres humaines. Bon, vous avez entendu parler de l'ONU. Qui peut me dire ce que c'est ? Vous parlez tout bas, vas-y.
Organisation des Nations Unies.
Parfait. Organisation des Nations Unies. L'Organisation des États-Unis, des Nations Unies, pardon, lapsus, c'est une organisation mondiale au sein de laquelle on retrouve à peu près tous les pays de la planète qui essaye d'organiser, en fin de compte, avec divers outils, je vais en citer deux ou trois, le destin collectif de notre planète. Vous avez par exemple un outil, je vais l'appeler comme ça, qui s'appelle les casques bleus. Là où il y a des conflits, on envoie des casques bleus, c'est-à-dire des soldats qui fonctionnent, qui appartiennent à l'ONU, et ces casques bleus essayent de minimiser, sécuriser, arrêter, surveiller une résolution de tel ou tel conflit. Vous avez un autre outil, qui est par exemple, et on va arriver sur le développement durable, il y a une commission dans l'ONU, il y a un groupe de travail si vous voulez, qui s'appelle la commission environnement et développement. Et cette commission, qui était présidée il y a quelques années par Madame Brundtland, vous avez entendu parler du rapport Brundtland, peut-être pour certains d'entre vous. C'était quoi ? C'était l'ONU qui se disait, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, puisque les matières premières, puisque notre planète a des limites. Si on creuse parce qu'on veut récupérer de l'or, quand on a pris tout l'or, il n'y a plus d'or, qu'est-ce qu'on fait? Donc puisque cette planète est une petite planète et qu'on ne sait toujours pour l'instant pas aller sur Mars à 300 années-lumière d'ici, on ne vit pas assez longtemps, si on le dit comme ça, ben il faut bien réfléchir à la façon de vivre, à la façon d'utiliser notre planète et ses ressources, pour que non pas 1 milliard ou 2 milliards d'humains vivent bien, mais qu'il y ait les 7 milliards d'humains, si possible, qui vivent bien. Est-ce que le bonheur est matérialiste? Pas sûr, parce qu'il n'y a pas assez de matière première pour que tout le monde se réalise dans la possession d'objets. Bon, donc notre système arrive certainement à ses limites. Donc il faut réfléchir sur ce qu'est le bonheur, réfléchir sur ce qu'est notre nouveau destin collectif. Et donc l'ONU a demandé à Madame Brundtland, qui présidait cette commission environnement et développement. Environnement, c'est je tiens compte des limites et des stocks de la planète. Développement, ben, c'est on va de l'avant, hein. on va pas s'arrêter, on va pas se lamenter sur notre sort, on va continuer à vivre, bien évidemment, c'est surtout pas la fin des temps. Les civilisations évoluent, naissent, meurent, mais quand on dit une civilisation meurt, c'est pas la comment dire, les humains disparaissent de la planète, hein. C'est un système qui laisse place à un autre système, quoi. Bon. Et donc elle a produit un rapport, Madame Brundtland, qui disait bah, pour que notre développement devienne durable, eh bien un certain nombre de sujets à traiter, un certain nombre de sujets à dominer. Sinon on ne peut pas parler de développement durable. Notre mode de développement actuel est considéré comme non durable. Dans quelques années, si on prend les ressources de pétrole, tout à l'heure je disais 50 à 60 ans, bah, c'est terminé. Et si on ne se prépare pas à autre chose, à une autre mobilité, voire à d'autres carburants ou d'autres moyens de transport, et bien à un moment donné, pouf, le réservoir est à sec et le système s'effondre sur lui-même. Donc, elle a émis un rapport qui a été mis sur la table à Rio en 1992, premier sommet de la Terre. C'est la première fois que tous les pays du monde, se réunissent autour d'un même sujet, qui est le rapport du développement durable. Rio, 1992. Et tous les 10 ans, Johannesburg, j'ai eu la chance d'être dans la délégation France, c'était 2002, et en 2012, nous retournons à Rio. Tous les 10 ans, l'humanité, sous l'égide de l'ONU, essaye de regarder comment nous prenons ce virage pour construire finalement une autre forme de bonheur, une autre forme de civilisation. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, il y a des guerres qui en attestent, il y a des crises qui en attestent, des crises financières, on a entendu parler ces temps-ci, mais qui sont autant d'indicateurs que le système est devenu à bout de souffle, est en train d'arriver à bout de souffle en tant que tel. Puis vous avez des crises environnementales, et puis des petites pollutions qui passent par là, et puis un petit réchauffement climatique, et puis, alors je vais vous lister les quelques sujets du développement durable que nous sommes en train de travailler, nous, c'est vous, comme nous, hein, c'est pas l'ADEME qui travaille, ce sont pas les élus, ce sont pas les entreprises, ce sont pas vos professeurs, c'est la totalité des humains qui sont invités à y réfléchir pour prendre le virage. Alors, en fait, Madame Brundtland a donné trois définitions du développement durable, deux connues, très connues, je vais vous les citer, puis une troisième peut-être moins connue, parce que ce n'est pas une définition, là on entre vraiment dans le concret. Donc les deux définitions, c'est pour que le développement soit durable, il faut qu'on s'occupe à la fois de l'aspect humain, social des choses, il faut qu'on s'occupe de l'aspect environnemental, des limites de notre planète, et puis il faut qu'on s'occupe de l'aspect économique, évidemment. Pour créer une valeur aux choses, donner une valeur aux choses. Et si on ne s'intéresse qu'à l'aspect économique, ça donne des crises financières que l'on connaît actuellement. Si on ne s'intéresse qu'à l'aspect environnemental, on n'a peut-être plus le droit de rien faire. Parce que dès que vous faites quelque chose, forcément, vous allez émettre des gaz à effet de serre, j'y reviendrai juste après, vous allez consommer des matières, vous allez construire une route, donc vous allez faire reculer de la nature. Mais attendez, l'humain fait partie de la nature, donc il n'est pas question de ne pas se développer. Mais il faut tenir compte des limites environnementales. Et puis si on ne tient compte que du social, que des limites sociales, quid de l'activité économique et quid de l'environnement? Bref, il faut essayer d'être transversal, de penser à tout en même temps et pas chacun dans son coin, chacun sur son sujet, chaque spécialiste dans sa spécialité. Ça, c'est la première définition. En partant du constat que pour l'instant, notre monde est très, très, très cloisonné. Les gens du Nord ne parlent pas trop aux gens du Sud, réciproquement. Les grands parlent pas trop aux petits. Les noirs parlent pas trop aux blancs. Les philosophes ne parlent pas aux mathématiciens. Le mathématicien, lui, il rigole du physicien. Chacun est cloisonné dans son métier. Chacun détient sa propre vérité. Pour réussir ensemble à cheminer vers autre chose, il faut qu'on discute. Et une deuxième définition, qui est empruntée aux Indiens d'Amérique du Nord, qui est, c'est une définition que vous entendez souvent, hein, c'est le développement, il est durable, c'est-à-dire il va durer dans le temps, si à chaque fois qu'on fait quelque chose maintenant, on pense à nos enfants, on pense à nos petits-enfants qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on dit satisfaire les besoins des générations actuelles sans préempter, sans oblitérer les besoins des générations futures. Je reviens à mon histoire de pétrole. Si nous siphonnons la totalité des réserves de pétrole en 50 ou 60 ans, pensez que vos enfants, vos petits-enfants auront encore du pétrole? Non. Alors, il y a d'autres façons de fonctionner. Mais quand même, ça a un certain intérêt, le pétrole, notamment pour un certain nombre d'objets dans la plasturgie, par exemple ceux qui font un peu de sport, là, qui jouent un peu avec du carbone ou du kevlar, ou ces matériaux-là qu'on rencontre dans les canoës, qu'on rencontre sur des vélos. Comment allons-nous faire de tels instruments pour faire du sport si on a siphonné la totalité du réservoir? Comment feront nos enfants, nos petits-enfants? Ce sont les deux définitions classiques. Vous allez à nouveau sur Internet, vous retrouvez, vous tapez développement durable, vous avez ces deux définitions. Économique, social, environnemental, il faut tout faire ensemble. Et puis satisfaire les besoins, gnagnagnagnagna. Troisième définition, là on va entrer dans le côté pratique, ce sont les annexes à ce rapport. Un rapport a toujours une partie synthétique, puis après il y a des annexes, hein, pièces jointes, annexes, documents, etc. En fait, Madame Brundtland, avec sa commission, a identifié une bonne dizaine de sujets par lesquels il nous faut passer pour construire un développement durable. Donc elle a dit, c'est simple, vous avez la biodiversité, 80% des produits, des médicaments par exemple, proviennent de la biodiversité. Donc c'est simple, si on continue à saccager la nature, on ne voit pas très bien comment on va se fabriquer nos médicaments pour se soigner. Donc la préservation de la biodiversité, c'est indispensable à la durabilité de notre vie. Vous avez par exemple la préservation de la ressource en eau. Tout à l'heure on se disait, il y a 1 milliard, 2 milliards d'humains qui vivent à peu près bien. Et ces 2 milliards d'humains consomment actuellement 120% de l'eau potable de la planète. 120%, ça veut dire qu'on consomme les 100% de l'eau potable, de l'eau douce, et qu'on désalinise, parce qu'on est déjà en sur-régime, de l'eau de mer. Donc ça veut dire que pour les autres, ben il va falloir uniquement consommer de l'eau de mer, donc désaliniser, ça coûte cher, il faut des usines. Vous croyez que les pays du Sud, les pays en développement, peuvent se payer des usines de désalinisation, parce que nous consommons la totalité de l'eau potable? Alors, il faut s'occuper de l'eau. On va parler du climat. Climat, réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de serre. Aïe, 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 la température se réchauffe. Rassurons-nous, là je suis ironique dans le propos, c'est bien l'humain, maintenant c'est avéré, qui est le responsable de cet accroissement de température. C'est pas des taches solaires, c'est... Non, ça y est, maintenant on y est, c'est bien... Notre consommation et notre production d'objets de consommation très matériels, qui se traduisent par de l'énergie consommée, c'est nos modes de chauffage, c'est nos modes de déplacement, beaucoup de pétrole, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, donc de gaz carbonique pour ceux qui trempent un peu dans la chimie ou la physique, de méthane, CH4, etc. On parle toujours de carbone parce que le carbone c'est l'un des principaux constituants de ces gaz à effet de serre. Bon. Quand on fabrique un objet, quand on refabrique un autre objet plutôt que de recycler le premier, eh bien on reconsomme de l'énergie, on reconsomme des matières premières, on réémet des gaz à effet de serre. Bon, donc le réchauffement climatique, quand même sacrément problématique, parce que augmenter la température de la cocotte minute, ça revient à quelques minutes. Si ça va trop loin, il y a une espèce d'emballement. Vous savez, la cocotte minute, elle marche toute seule après. Et on est dans ce registre-là actuellement. Vous avez vu qu'il y avait une conférence à Durban en ce moment. C'est pour faire le point sur le sujet réchauffement climatique. pour encore en citer un ou deux, la dette. Comment voulez-vous que le système marche si vous avez une grande partie des pays qui doivent de l'argent à d'autres pays? C'est principalement les pays du Sud qui doivent de l'argent aux pays du Nord, à nous. Allez, on s'en met encore un, les droits de la femme, par exemple. Droits de la femme. Comment voulez-vous que le système marche si une partie de la civilisation, mesdames, avait moins de droits que ces messieurs les hommes? Il y a un léger déséquilibre, là, mais tout se fait rien. Il n'y a pas de différence dans le droit des uns et des autres, quoi. Vous avez récupéré, mesdames, le droit de vote en France il y a simplement quelques décennies. Vous ne savez peut-être pas. Quoique. Bon, etc., etc. Donc, il y a toute une série de sujets. Et ce qu'a dit Mme Brundtland, puis après on arrive sur les énergies et les énergies renouvelables, ben c'est qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres, que si on les traite tous, on va arriver vers autre chose qu'une civilisation matérialiste, qui ne croit qu'en le bonheur matériel pour quelques-uns, bien sûr, et le reste ce sont des pauvres. Et donc, à ces sommets de la Terre, nous réfléchissons sur tous ces sujets, nous prenons des résolutions, nous essayons de construire, nous, vous êtes bien évidemment complètement dans le circuit, dans le système, par votre droit de vote, par vos gestes quotidiens, par ce que vous faites, nous construisons un autre monde avec ces sujets-là qui sont des sujets incontournables. Ça ne se fait pas facilement parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des solutions de facilité. C'est plus facile de déstocker du pétrole que de travailler sur telle ou telle autre forme d'énergie. J'y reviens juste après. Et ce qu'a dit Mme Brundtland pour terminer notre affaire géopolitique, c'est, parmi tous ces sujets-là, la dizaine de grands sujets qui sont des jalons, hein, un petit peu comme un chemin, là, comme une course d'orientation, il faut trouver des balises. Très bien, on a 10 balises, mais il y a une balise qui clignote. Et quand on parle d'urgence climatique ou d'urgence écologique, eh bien le sujet du réchauffement climatique arrive en numéro 1 dans les priorités. On va faire un tout petit peu de cynisme. Vous pouvez vivre sur une planète avec une partie de gens riches et une partie de gens pauvres. Ah, c'est pas marrant pour les personnes pauvres. Mais bon, c'est horrible, mais ça fonctionne quand même. Vous pouvez vivre, ou vous pouvez penser vivre en saccageant la nature. Pour l'instant, ça marche encore. Les espèces disparaissent, les plantes reculent. La capacité à fixer du gaz carbonique, du carbone par les plantes est en train de diminuer également, parce qu'il y a de moins en moins de plantes, de moins en moins de terrain naturel ou de forêt. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, ça semble encore vivable, quoi. Là, ça craint, comme vous dites. Là, il faut aller vite, il faut aller assez vite pour réagir. La date vers laquelle tout converge, je l'ai vu dans le questionnaire que vos professeurs vous ont remis, c'est vers la fin, là. Une date qui est 2020. La 2020, sur le sujet du réchauffement climatique, je vais vous expliquer à quoi ça correspond maintenant, et on va arriver sur les renouvelables. On va fonctionner en inverse, c'est pas moi qui vais vous parler des renouvelables, c'est vous qui allez m'en parler, vous allez voir, ça va être très simple. Donc maintenant, quatrième et dernier point, énergie. Donc, on a vu que le réchauffement climatique, donc je vais très vite, hein, je donne pas mal de cours, d'habitude pour vous parler de tous ces sujets-là, c'est à peu près une semaine. Donc là, je vous fais une contraction 45 minutes. Donc, vous imaginez l'appel intellectuel, l'effort intellectuel qui est le vôtre, mais ça doit vous parler tout ça. Vous devez commencer à faire du lien, à avoir du lien avec ce que vous voyez dans les médias, les événements météorologiques, là, ça se réchauffe, c'est de plus en plus chaud, la crise dont on parle financière, le système dans lequel on est, relancer la consommation matérielle, bon voilà, ça va vous parler tout ça. Vous ferez votre idée bien évidemment, mais vous l'avez certainement déjà, même si elle est un petit peu enfouie, peut-être encore pour l'instant. Donc énergie. On a vu que les émissions de gaz à effet de serre, je vais vous parler du cycle du carbone, ça va être peut-être plus simple comme ça. Nous avons sur la planète un cycle naturel du carbone. Vous êtes du carbone, hein, vous êtes fait de carbone essentiellement. Les plantes, c'est du carbone, il y a du carbone partout de toute façon. Bon, le cycle du carbone qui se balade entre vous, les océans, le plancton, l'atmosphère, le végétal, hein, les arbres, etc., c'est à peu près 800 milliards de tonnes de carbone par an qui se promènent, quoi.
Voilà, ça c'est la nature, c'est le cycle naturel du carbone dont vous faites partie. Nous sommes une poussière de la planète. Très bien. Les humains, dans leur mode de développement actuel, émettent chaque année 6 à 8 milliards de tonnes de carbone par an. Voilà. Notre civilisation, notre bonheur matérialiste, le prix à payer, c'est 6 à 8 milliards de tonnes de carbone par an. Pour que la température, l'élévation de température, parce que plus vous émettez de carbone, plus l'atmosphère, lui, se remplit de gaz à effet de serre, et plus le phénomène de gaz à effet de serre s'accroche, donc ça se réchauffe. Quoi. Hein, avec le, je vous explique pas le phénomène, mais vous le verrez ou vous le reverrez en physique-chimie, avec ces fameux rayonnements solaires qui est en quelque sorte piégé par le grand pare-brise que nous avons autour de notre planète. Bon, donc plus vous envoyez des gaz à effet de serre, plus vous envoyez du carbone, plus ça accroît le phénomène d'effet de serre, plus ça réchauffe la planète. Il y a une limite à ça. C'est plus 2 degrés Celsius d'élévation moyenne de la température de la Terre dans le siècle à venir. Si on dépasse ça, bah les aléas climatiques, les tempêtes, les coups de vent, ça va encore s'amplifier, ça devient de plus en plus violent et de plus en plus fréquent. Les quelques petites pandémies, vous savez, peste, choléra, etc., au-delà de plus de 2 degrés d'élévation de température, vous avez un accroissement des pandémies sur la planète. Donc vous devez déjà pomper comme des shadows parce que la mer monte, parce que les tempêtes augmentent. Et puis vous devez aussi vous occuper de la santé humaine parce que là, les petites bébêtes, ça commence à mal se passer. Vous avez aussi d'autres phénomènes qu'on appelle glaciation qui peuvent très bien aussi arriver. Bon, voilà. On n'est pas là pour se faire peur, mais simplement pour vous dire que les scientifiques et les toubibs se sont dit il faut absolument pas qu'on ait une élévation de température de plus de 2 degrés dans le 21e siècle. Et pour ce faire, il faut qu'on divise par 2 ce que les humains émettent chaque année à l'atmosphère. Voilà. Alors on va pas arrêter de se développer, on va pas arrêter de se déplacer, on va pas arrêter d'aller en vacances, on va pas arrêter d'avoir quelques objets quand même, hein, c'est quand même pas mal le matérialisme, pas trop de gâchis, mais quand même quelques-uns. On va pas repartir en arrière, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de tout ça, bien évidemment. Néanmoins, il y a un petit peu d'économie à faire d'énergie et d'économie de gaz à effet de serre. On peut se déplacer un peu plus intelligemment, pas chacun dans sa bagnole, 2 dans la bagnole, et puis en ville, en vélo ou en transport en commun. Il y a plein d'idées qui ne nous empêchent pas de nous déplacer, de consommer, de vivre, de faire la fête, mais simplement de le faire intelligemment, en émettant moins de gaz à effet de serre. Donc il faut diviser ça par 2. Et pour y arriver, on s'est dit on va se faire une période d'échauffement jusqu'en 2020. Donc d'ici 2020, les objectifs mondiaux de l'ONU, il y a des pays qui acceptent, il y a des pays qui rouspètent, il y a des pays pétroliers qui veulent pas, il y a des pays nucléaires qui disent nous n'a rien à faire, il y a des pays, etc., etc. C'est pas simple de changer de civilisation. 2020, c'est la période d'échauffement. Il faut qu'on stabilise les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut plus que ça augmente, cette affaire. Et puis ensuite, 2050, c'est ça les deux dates. 2050, il faudra que globalement sur la planète, nous ayons divisé par 2 les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone des terriens. Ça veut dire que, et j'emploie des termes cyniques, les pauvres du Sud, des pays du Sud, eux, sont en train de se développer, donc ils vont... On va pas leur dire de diviser par 2, c'est pas possible. Ils sont en train de mourir de faim. Donc eux vont se développer, donc vont émettre un peu de gaz à effet de serre. Mais puisqu'ils vont se développer, petit à petit, ben ça veut dire que pour nous, les gens déjà développés ou presque trop développés, vivent le gâchis, nous, il va falloir qu'on divise par 4. Donc l'hémisphère nord, lui, il va falloir qu'il divise par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, parce que les pays du Sud se développent. Le but étant que globalement sur la planète en 2050, on est bien divisé par 2 ces émissions de gaz à effet de serre. Donc phase d'échauffement jusqu'en 2020, regardez dans les médias, regardez les discussions, regardez les négociations âpres, parce qu'il y a de l'intérêt là-dedans, parce qu'il y a de l'habitude, parce qu'il y a de la résistance au changement, etc., etc., parce qu'il y a des croyances que le bonheur matérialiste est encore extensible à toute la planète. Et puis après, on passera à la compétition. 2050, on sera prêt. Et qu'est-ce qu'on a comme levier? Qu'est-ce qu'on a comme moyen de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On va parler en France et on va parler chez les ch'tis. Et là, c'est vous qui allez enfin en lire. Il y a 1, 2, 3, 4 leviers. 4 leviers, là aussi clé de lecture, et j'ai presque terminé. C'est vous qui allez même terminer juste après. Parce que dans la presse, parce que quand vous vous promenez dans la rue, parce que quand vous entendez discuter, quand vous regardez la télé, quand vous lisez tel ou tel document, quand vous êtes dans tel ou tel cours, vous entendez parler de quoi ? Vous entendez parler de bâtiment, secteur du bâtiment. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le bâtiment ? Parce que c'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer les matériaux de construction. Il faut de l'énergie pour fabriquer une brique. Ensuite, on installe la brique. Mais si on n'isole pas la brique, la maison, elle va être chauffée. Et puis, j'image un peu les choses, le chauffage va partir aux petits oiseaux. Le carbone va partir aux petits oiseaux. Les gaz à effet de serre vont partir aux petits oiseaux. Donc, en gros, on cherche dans le bâtiment à faire des économies d'énergie. Bon. Deuxième chose, les transports. Transports, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre aussi de ce secteur-là. Mais les transports, c'est tout le monde. C'est vous qui faites vos déplacements. Ce sont les entreprises qui donnent des ordres de déplacement. Je suis un entrepreneur, je fabrique des crayons, j'envoie mes crayons sur le marché, comme on dit maintenant. Donc, j'envoie ça pour être vendu à Paris, à Strasbourg, etc. Si je demande à un camionneur de me transporter mes crayons pour aller les vendre, j'émets des gaz à effet de serre en tant que tel. Si je privilégie le train pour faire transporter mes crayons, pourquoi pas, ou le bateau. Vous avez vu qu'il y a un canal Seine-Nord là, qui est en train de se construire. Je vous donne encore cette petite lecture-là. Eh bien, ça veut dire que le transport que j'ai demandé, il va émettre moins de gaz à effet de serre que si j'avais donné un ordre de transport à un routier par la route. Donc, on est sur un système qui est en train de changer en tant que tel, et tout le monde est concerné. Donc, dans les transports, même chose, on va chercher à faire des économies d'énergie, et bien sûr, tout ça, c'est des économies, des réductions de gaz à effet de serre, de GES, comme on dit dans le jargon. Bon, vous avez vu dans les villes, il commence à y avoir du vélo. 10 ans, 15 ans, on rigolait de ceux qui se déplaçaient en vélo, des gens comme moi, en costume, cravate, qui se déplaçaient en vélo, ça se voyait pas. Le maire de Bourdin, il se déplace en vélo ? Tant mieux, c'est un bon maire, pour voter pour lui, je ne sais pas qui c'est. Fais attention, hein, droite-gauche, il faut faire très attention à tout ça. Bon, mais comme tu dis, un maire qui se déplace en vélo, c'est intéressant. Il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas si c'était déjà lui en place ou si c'était quelqu'un d'autre, ça m'étonnerait que son ou ses prédécesseurs se déplaçaient en vélo, quoi. Et c'est devenu pas du tout rigolo, quoi. C'est devenu extrêmement sérieux. Puis finalement, très sain pour l'organisme. Et puis, pour tout vous dire, ça va même plus vite en ville de se déplacer en vélo ou en autobus que de prendre une bagnole, seul dedans, d'envoyer des gaz à effet de serre, de ne pas réussir à se stationner, de se prendre une prune, etc., etc. Bon. 1, 2 leviers. 3e levier. Et on terminera bien sûr par les énergies nouvelles et renouvelables. Le 3e levier, c'est celui de la consommation. Donc là, il ne s'agit pas de faire des économies d'énergie en tant que telles. Le rapport à l'énergie est moins prégnant. Il s'agit simplement de consommer autrement. Les pouvoirs publics, par exemple, vont chercher, et l'ADEME forcément y travaille, nous sommes une agence d'État. On dépend du ministère de l'écologie et du ministère de la recherche. Et donc on travaille sur comment rendre le système plus durable, comment traiter ce sujet réchauffement climatique. Avec des ingénieurs que j'ai dans mon équipe, avec des sociologues, avec des financiers, et donc on donne des conseils, et puis on injecte des subventions publiques pour accélérer ces choses-là. Là, par exemple, on va développer des étiquettes. Quand vous achetez un bien de consommation, un produit, dans le magasin, dans le supermarché, vous avez toujours le prix, ça il n'y a pas de problème, le prix est toujours indiqué. Mais de plus en plus, et vous le voyez par exemple maintenant sur les machines à laver, alors c'est peut-être vos parents plutôt qui achètent des machines à laver, vous, ça va venir quand vous serez après le bac dans votre appart, alors peut-être une petite machine à laver, et ce sera l'heure. Vous avez une petite étiquette là, A, B, C, D, E, F, G, de toutes les couleurs. Vous voyez ça aussi sur les télés, vous voyez ça maintenant sur les ordinateurs, vous voyez ça sur les maisons, vous voyez ça sur les voitures. Ben, c'est nous qui l'avons mise au point, cette étiquette. Et elle consiste à dire quoi ? À dire, s'il vous plaît, madame, monsieur, quand vous achetez quelque chose, faites attention aux limites de la planète, faites attention au réchauffement climatique, prenez plutôt, achetez plutôt des machins, des objets qui ont des étiquettes A ou B, c'est-à-dire tout en haut, là, dans les couleurs, plutôt que des étiquettes, plutôt qu'un fléchage avec des lettres E, F, G, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que le produit qui a une étiquette qui n'est pas terrible, environnementale, il contribue au réchauffement climatique. Donc ne l'achetez plus. Voilà, on est en train de travailler sur comment faire en sorte que la consommation, il s'agit de continuer à manger, pardon, de continuer à se déplacer, de continuer à fonctionner, mais que ce soit durable. Donc il faut tenir compte des limites de la planète. Un autre exemple, c'est quand nous disons, quand dans votre cantine, quand dans les médias, on vous dit « Ah, ça ce sont des fruits ou des légumes de saison ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont été fabriqués, produits ici. Donc non transportés, ne venant pas d'ailleurs. Si, allez, on est à quelques jours des fêtes de fin d'année, si vous mangez des fraises, si j'en chope un ou une à manger des fraises chez lui et ses parents d'ici la fin de l'année, hein, j'arrive tout de suite pour vous péter vos parents, parce que ça veut dire que vous prenez des fraises qui viennent du Portugal, ou qui viennent d'Algérie, ou qui viennent de Turquie, que des fabriqués là-bas, il ne fait pas si chaud que ça quand même à cette époque-là, donc avec des serres qui ont dû fonctionner au gaz ou au charbon, vive les émissions de gaz à effet de serre, que ça a été transporté, si possible, par la route, force de l'habitude. Donc quand vous achetez une fraise à Noël, vous générez des émissions de gaz à effet de serre pour sa production ailleurs et pour son transport, pour vous ramener la marchandise. Les fraises, ça s'achète ici au mois de juillet ou au mois d'août. Elles sont fabriquées ici. En essayant de prendre des fruits et des légumes de saison. Vous savez que ça pèse beaucoup. Hein. La chaîne alimentaire en France, si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous faites gaffe à ne pas prendre des poissons qui sont en train de disparaître, etc., etc. Donc réfléchissez, c'est presque un jeu. Vous jouez, vous contribuez sur 30% des émissions de gaz à effet de serre françaises. 30%. Bon. Dernier sujet, celui des énergies nouvelles et renouvelables. On a dit qu'on ne retournait pas à la bougie. À faire des économies d'énergie ici, on va acheter, consommer mieux, fabriquer mieux, essayer de développer, je reviens deux secondes à la consommation, une consommation de partage. Vous savez, le magasin Kiloutou, là, dont on rigole parfois, c'est pas si mal que ça. Parce que l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur la tondeuse à gazon, où chacun a sa tondeuse, quand on a un petit lopin de terre à tondre, une tondeuse en France, ça sert 14 heures par an en moyenne. Donc ça veut dire que tout le reste du temps est dans votre garage ou dans un abri de jardin. Quand vous cherchez à remettre en route ce engin-là au printemps suivant, après l'hiver, évidemment, ça ne démarre pas. C'est une source d'emmerde, si vous me passez l'expression. Et puis surtout, il a fallu fabriquer moult tondeuses qui ne marchent pas, qui vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Des magasins, je ne fais pas de pub, mais je donne cet exemple-là parce que je pense que ça vous parle aussi, comme Kiloutou, ben ça crée de l'emploi. Parce que vous allez aller louer tel ou tel équipement, peut-être pas la tondeuse, ça sert encore peu, mais une tronçonneuse, une scie, des équipements électriques divers et variés, ils vont être entretenus, donc il y a bien du boulot derrière l'entretien, simplement ils vont être fabriqués une fois. Et on ne va pas fabriquer 10 fois le même objet pour que chacun soit content d'avoir son objet, et donc émettre 10 fois des gaz à effet de serre. Donc, la société de consommation, petit à petit, et c'est vous, consommateurs, c'est vous, acteurs, citoyens, qui allez décider dans la façon de consommer, dans la façon d'acheter, on est en train de la changer. Alors ça se fait lentement, hein. Puis les signaux sont plutôt « vive les promos, vive les soldes, etc. » Mais quand même, voilà, les petits virages sont en train de se faire. Donc dernier sujet, et c'est 1, 2, 3, le quatrième levier sur lequel tout le monde travaille, vis-à-vis duquel tout le monde est concerné pour réduire les émissions de gaz à effet de serre française, c'est celui des énergies nouvelles et renouvelables. Donnez-moi les deux sources illimitées d'énergie. Je ne vous parle pas de l'uranium, du gaz, du pétrole ou du charbon, ça c'est limité, hein, quelques dizaines d'années. Les deux sources illimitées à notre échelle humaine. Allons-y. Les sources. Alors là, t'as dit le soleil, on est d'accord ? On va mettre derrière. Non. C'est presque l'eau. C'est en dessous de l'eau. Bon voilà, c'est la terre, c'est le noyau de la terre. Voilà, on va mettre la terre. Ces deux sources-là, 4-5 milliards d'années, c'est plus que 50 ans de pétrole ou 53 ans d'uranium. Bon, là déjà ça va déjà un peu mieux. En termes de limite, en termes de stock, on est illimité. Et il va y avoir des civilisations après nous qui vont à nouveau consommer de la Terre et du Soleil, premièrement. Deuxièmement, vis-à-vis des gaz à effet de serre, il n'y en a pas. Ça, c'est de la nature. Donc c'est intéressant d'un point de vue réchauffement climatique de développer ces usages énergétiques-là, de développer ces sources-là. Et puis c'est intéressant, bien évidemment, en termes de stock physique, en termes de stock économique, si vous voulez, parce que c'est illimité à l'échelle de l'humain. Alors maintenant, on va simplement terminer le petit propos. J'ai à peu près tenu les temps. J'ai un petit peu consommé le temps de discussion, mais comme je me suis permis de me poser 3-4 questions, je retombe sur mes pieds comme ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme différents usages ou différentes énergies, c'est tout ça, les énergies renouvelables, issues du Soleil ou issues de la Terre? Donc là, maintenant, on y va. Tant que vous n'avez pas rempli ça, on passe pas à la phase de questions-réponses. Vas-y. Donc là, ok. Ce qu'on appelle le photovoltaïque, PV, et pas procédure, c'est photovoltaïque, c'est effectivement l'un des usages du soleil qui consiste à mettre des petits capteurs, des petits panneaux, des petites cellules pour fabriquer à partir de l'énergie du soleil de l'électricité. D'accord ? Donc ça c'est pour faire des lacs. Vous avez ça sur des calculatrices, vous avez ça sur des montres, vous avez ça sur des bateaux, vous avez ça sur des maisons, vous avez ça sur des usines. C'est en train de se développer. Le photovoltaïque. Ok. Capteur solaire mais photovoltaïque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Thermique, effectivement. Donc là, on va surtout faire du chauffage ou de l'eau chaude, parfois les deux. Et ça, c'est effectivement les deux formes d'énergie solaire. Il y en a une troisième d'énergie solaire. Pardon ? J'ai pas entendu. L'hydraulique, on y revient après. On va rester sur le solaire. Il faut que vous en trouviez, il y en a une troisième. L'élève de seconde, là, c'est ça, première, c'est toi? Tout à l'heure, tu m'as dit, tu devais faire un rapport sur... Tu m'as pas parlé d'habitat? Une maison passive? Pas toi qui m'as dit ça, alors c'est quelqu'un d'autre, pardon. Mais ça ne fait rien, je vais prendre ça parce qu'effectivement, c'est la troisième forme d'énergie solaire. On appelle ça Ishi, Dachner, des vérandas. Ok, donc il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont connu ou qui ont des vérandas à coller à leur maison. C'est quoi cette affaire-là? C'est une serre, tout simplement. Même chose pour l'agriculteur ou l'horticulteur qui fait des serres, pas forcément avec les rayons du soleil. D'accord? C'est ce qu'on appelle du solaire, et c'est la troisième forme d'énergie solaire, passif. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de cellule photovoltaïque, il n'y a pas de capteur avec des tuyaux, avec une pompe, etc. à mettre pour chauffer de l'eau chaude, de chauffer des bâtiments. Il y a juste des vitres, et ça chauffe tout seul. Véranda et compagnie, serre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre énergie issue du soleil? T'as levé ta feuille, donc vas-y, c'est comme si t'avais levé la main. Vas-y là-bas. Ouais, toi. Rien à dire. Bon, alors j'y vais, je vais vous aider un tout petit peu. Nous avons, mais ça a été dit, l'énergie éolienne. Le vent, il vient de où? Il vient des rayons du soleil qui chauffent notre planète à certains endroits, jour, nuit, d'accord? Tout ça, ça tourne. Donc il y a un côté de la planète qui est chaud, chauffé, c'est le jour, puis il y a le côté qui est froid, c'est la nuit. Et on assiste à ce qu'on appelle un phénomène de convection en physique, c'est-à-dire que les vents se mettent à tourner tout seuls. Il chauffe, froid, hop, ça tourne. C'est ça l'énergie éolienne. C'est simplement le soleil qui met en mouvement des masses de vent sur la planète. Alors on peut faire avec de l'éolien d'électricité. Vous voyez quelques éoliennes qui commencent à se développer. Mais on peut faire aussi du transport. Les dirigeables, tiens, du côté de Toulouse, du côté de l'aérospatiale là-bas, eh bien il y a maintenant une réindustrialisation, ça y est, c'est parti, de fabrication de dirigeables. Parce qu'on peut transporter des poutres, on peut transporter des maisons, on peut transporter des objets divers et variés, pas que par des moyens, avions ou hélicoptères, qui consomment du kérosène, du carburant, donc qui émettent des gaz à effet de serre. On peut aussi transporter ces affaires-là par des dirigeables. D'accord ? Les voiliers, c'est la même chose. On s'était mis à consommer parce que c'est facile, parce que c'était immédiat, parce qu'on ne s'était pas posé la question des limites à quelques-uns. On s'était mis à se déplacer exclusivement dans des bateaux qui marchent au fioul, voire qui marchent au gaz. Eh bien, sachez qu'actuellement, il y a à nouveau, pas que pour faire de la régate ou faire du tourisme, il y a à nouveau des bateaux qui commencent à refonctionner, à être développés avec de la voile, en utilisant le vent. Alors, effectivement, ça met un petit peu plus de temps, mais ça se calcule, ça s'intègre. Si ça coûte moins cher de se développer, surtout si ça pollue moins, ben, il suffit de dire, quand vous envoyez une marchandise par un bateau à voile d'un point à un autre, ben, j'envoie la marchandise 8 jours avant pour qu'elle soit arrivée à temps, et non pas de l'envoyer la veille pour le jour même avec un moyen qui va émettre trop de gaz à effet de serre. Dernière chose, issue du soleil. Pardon ? La photosynthèse, parfait, parfait. Tu veux être ingénieur à l'Agence de l'Environnement ? Tu peux venir, je t'embauche. Là, ça, c'est bien, ça. Alors, photosynthèse. Effectivement, le végétal, la photosynthèse, la biomasse. Allez, on va aller jusqu'à la méthanisation, la récupération de méthane pour faire de la chaleur, de l'électricité. Bah, tout ça, c'est le lien entre soleil et puis nature, finalement, végétale. Et c'est énorme, cette affaire-là, parce que... Allez, on va réduire ça au bois. À partir du bois, à partir des arbres, voilà, vous pouvez faire des matériaux. Vous n'êtes pas obligé de faire des maisons en béton hein, ou en briques, vous pouvez les faire en bois. Ça se faisait beaucoup dans notre région. Vous pouvez mélanger du bois avec du torchis. Sachez qu'il y a des pays, par exemple la Bolivie, 50% des maisons de la Bolivie sont faites en torchis et sont des maisons extrêmement sympathiques. Hein. Ce sont des maisons comme vous les connaissez par ici. Quoi. Ça commence, sont faites en torchis avec un mélange de bois, de paille. Bon. Donc des matériaux, vous verrez, dans le bâtiment, on voit de plus en plus d'utilisation du bois. Parce que le bois, qu'est-ce qu'il stocke pendant sa croissance, un arbre, il stocke du carbone. Donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, plus on va développer des arbres, plus ceux-là vont stocker du carbone pendant leur croissance. Et ce carbone stocké, confisqué, emprisonné, c'est très intéressant de l'utiliser comme matériau de construction dans le bâtiment. Au moins, il y a une partie de la résolution du problème. Vous allez au Maroc, vous avez des maisons qui ont 400 ans. 400 ans. Quand j'en ai visité un certain nombre, ce sont des maisons qui vivent extrêmement bien. Les maisons de 400 ans, les maisons dites modernes que nous avons faites depuis quelques décennies, dans les périodes de reconstruction d'après-guerre notamment, je ne suis pas sûr que ça va durer 400 ans et que ça va stocker autant de carbone que... Ce n'est pas une critique, c'est simplement pour vous montrer que les champs du possible sont immenses, il suffit simplement de réfléchir aux limites et de réfléchir philosophiquement au bonheur. Et donc à l'emploi, parce que ces filières de bois matériaux que nous sommes en train de redévelopper, le conseil régional s'y attelle, l'État s'y attelle, les entreprises s'y attellent, c'est source d'emploi ça. Et tout ce qu'on raconte, mon histoire de Kiloutou, mon histoire là, votre histoire de développement d'énergie renouvelable, puis les histoires d'économie d'énergie dans le bâtiment, disons long, et puis dans les transports, diversifions nos modes de transport, rendons-les plus intelligents, et tout ça c'est source de création d'emplois. Je vous ai laissé un petit document là-bas qui vous en atteste. Le bois, ça peut servir aussi de chauffage. Il y a bien quelques inserts au bois. Vous avez déjà entendu parler de réseaux de chauffage urbain alimentés par des chaufferies bois. Vous avez des entreprises qui chauffent avec du bois, avec des copeaux de bois. Bref, c'est énorme ce que l'on peut faire avec ces histoires de bois. Bon, on a à peu près balayé toutes les énergies ou toutes les façons d'utiliser finalement une source inépuisable à notre échelle qu'est le soleil. Et là, ce n'est pas d'émissions de gaz à effet de serre. L'autre source inépuisable, c'est la Terre. En rebelote, vous avez toujours la parole pour m'aider à compléter les quelques types d'énergie nouvelles. Rien de neuf là-dedans, rien de neuf sous le soleil, rien de neuf sous nos pieds. Mais nouvelles parce que c'est récent, parce qu'on les a redécouvertes ou on a décidé de les développer. Allons-y pour la Terre. Donc c'est moi qui conclue. Et aussi sur nos rivières, voire à proximité d'un certain nombre de rivières, de fleuves, des lacs, des barrages, des petits barrages, on appelle ça la micro-hydroélectricité, et puis des grands barrages comme celui de Tigne, comme celui ou comme d'autres. Donc là, on fabrique beaucoup d'électricité. La géothermie, donc la étudiante qui parlait de géothermie, ben c'est la même chose. Le noyau terrestre, il y a quand même un petit peu de combustion là-dedans, c'est un peu chaud. Donc si on creuse des trous, c'est très imagé mon propos, c'est pour que tout le monde puisse bien se rattacher à ça, ben vous récupérez de la chaleur, vous récupérez de l'énergie qui va pouvoir, par exemple dans la région parisienne, vous avez quelque chose comme 200 000 logements, vous rendez compte, 200 000 logements qui sont chauffés par des réseaux de chaleur qui tirent leur énergie depuis le noyau de la Terre. Donc on fait des trous à entre 1000 et 2000 mètres, on est dans un bassin qui s'appelle le Dogger, c'est le bassin parisien, ça c'est pour ceux qui s'intéresseront plus tard à la géologie, et puis par rapport à l'énergie véhiculée là-dessous, on récupère de la température, de la chaleur, à quelque chose comme 70 degrés. À 70 degrés, même s'il y a un peu de perte en ligne dans les tuyaux et dans la distribution, vous arrivez à chauffer facilement des logements avec ça. Donc effectivement, les usages de géothermie qui consistent à tirer d'énergie provenant de la Terre, puis provenant un petit peu du Soleil qui réchauffe la Terre, mais on va dire provenant de la Terre, c'est une autre forme d'énergie nouvelle et renouvelable. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Non, on a tout dit, et on va terminer par un chiffre qui doit être mis dans votre questionnaire, peut-être. Voilà. Question numéro 9. Quel est l'objectif européen d'ici 2020? Vous vous souvenez, 2020, c'est la phase d'échauffement dans laquelle on est. Hein. C'est pour s'apprendre à faire tout ça. Encore 10 ans, là, pour faire tout ça. Après, on entre en compétition, comme je l'ai dit. Quel est l'objectif européen d'ici 2020 en matière d'énergie renouvelable? Allons-y. Qui veut se lancer sur un chiffre? Ah! Donc je vous donne la réponse, c'est 23%. Ce que veut l'Europe, et ce que nous voulons nous en France, il y a une loi pour ça. Oui, il commence à y avoir des lois hein, derrière tout ça. Maintenant c'est devenu sérieux, hein. Vous avez entendu parler d'un Grenelle de l'environnement, vous avez entendu parler de directives européennes, de lois d'orientation de la politique énergétique française. Bon, celle-là vous n'en avez pas entendu parler, elle est trop technocrate, elle date de juillet 2005. C'est récent tout ça. Hein. Bien c'est de dire en 2020... il faudra qu'il y ait 23% de notre consommation d'énergie en France pour qu'elle soit couverte, qu'elle soit satisfaite, qu'elle provienne d'énergie nouvelle et renouvelable. 23%. On sera en 2020. En 2020, on revoit le chiffre pour 2050. Donc vous m'avez compris, ça ne va pas rester à 23%. Puisque le but, à terme, je ne connais pas bien le terme, ça sera 2030, 2040, 2050, 2060, on n'est pas dans une science complètement exacte, et bien c'est que la quasi-totalité des besoins d'énergie se couvert par des choses qui, je le redis, je termine là-dessus, les chaînes humaines sont illimitées. Les stocks sont là, la non-pollution est là. Donc pour notre civilisation, pour notre bonheur intérieur brut qu'il va falloir un petit peu faire évoluer, il n'y a pas que la consommation matérielle dans la vie, c'est surtout les énergies renouvelables qui, à côté des économies d'énergie dans le bâtiment et les transports, et à côté du dernier levier sur la société de consommation, consommons intelligemment, posons-nous la question des limites, eh bien va nous permettre d'endiguer le réchauffement climatique et puis de passer à autre chose. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais on va y arriver. Voilà, donc là j'ai terminé avec 15-20 minutes de retard. Il nous reste 20 minutes, si mes calculs sont bons, maintenant de questions-réponses. Donc vous avez cette fois-ci définitivement la parole.